Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Situation humanitaire dans le Nord Kivu. Au moins 630 000 personnes déplacées du territoire des Massis y sont privées de l'aide humanitaire. Ceci ressort du dernier rapport des OCHA couvrant la période du 16 janvier au 12 février. La plupart des personnes déplacées, victimes des affrontements, vivent dans des conditions précaires et n'ont pratiquement pas accès à la nourriture, à l'eau potable, aux soins de santé et autres besoins fondamentaux. Les derniers affrontements sur la route Sake-Boeremana, un axe important reliant les provinces du Nord et du Sud Kivu, ont également eu un impact sur la situation humanitaire avec le risque d'isoler la ville de Goma. Le rapport de OCHA parle également d'au moins 28 civils tués et plus de 50 autres blessés lors des violents affrontements dans les Massissi depuis le 16 janvier. Depuis début février, des milliers d'habitants de Sake ont été contraints de fuir vers Goma. Quelle lecture faire de cette situation? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons à cet effet Dr Alain Mboko Iyeti. Il est secrétaire général aux actions humanitaires et solidarité nationale. Bonsoir Dr Alain Mboko Iyeti.
Bonsoir.
Placide Nzilamba, président de la société civile du Nord Kivu. Bonsoir Monsieur Placide Nzilamba.
Bonsoir Monsieur Guy, je rectifie que je suis secrétaire exécutif de la société civile Nord Kivu et non le président.
Merci beaucoup pour la rectification. Maître Paulin Kalenga, chargé des programmes de l'organisation AIDES, Action et Intervention pour le Développement et l'Encadrement Social basé à Goma, au Nord Kivu. Bonsoir Maître Paulin Kalenga.
Bonsoir et bonsoir aussi à mes co-débatteurs. Merci.
Merci et bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, l'accès humanitaire s'est réduit de plus en plus dans la province du Nord Kivu. Cela fait suite à la poursuite des hostilités qui se poursuivent dans les territoires des Massissi notamment. Les populations sont contraintes de fuir et se déverser dans la ville de Goma qui connaît actuellement un surpeuplement sans précédent. Ces milliers de déplacés vivent dans des conditions précaires et ils n'ont pas accès aux besoins fondamentaux, déplore OCHA dans son bulletin d'information d'hier mardi. Denis Zoukesso pour le détail.
Selon OCHA, 630 000 personnes déplacées sont privées de l'aide humanitaire, y compris les soins médicaux vitaux aux blessés victimes des affrontements. C'est suite à l'insécurité croissante dans les territoires de Massissi. Des combats qui ont occasionné des nouveaux mouvements de déplacement. Au 7 février dernier, Sake hébergeait plus de 100 000 personnes déplacées. Le site de déplacés Zaïna, situé dans la cité de Sake, a été abandonné par les occupants. Plus de 13 000 personnes déplacées qui vivaient dans ce site ont cherché refuge les uns dans d'autres parties de Sake et d'autres encore dans la ville de Goma. La plupart de ces personnes déplacées vivent dans des conditions précaires et n'ont pratiquement pas accès à la nourriture, à l'eau potable, aux soins de santé et autres besoins fondamentaux, s'indigne OCHA. Au moins 28 civils ont été tués et plus de 60 autres blessés lors des violents affrontements entre l'armée congolaise et les M23 dans les Massissi, selon OCHA qui cite les sources locales. Les affrontements ont également eu un impact sur la route Sake-Boeremana, un axe important reliant les provinces du Nord et Sud Kivu, désormais inaccessible. Goma, Denis Lukesso, Radio Kapi.
Merci à vous, Denise Lukesso. Docteur Alain Mboko Iyeti, je rappelle que vous êtes secrétaire général aux actions humanitaires et solidarité nationale. Il y a beaucoup de mouvements des populations. Vous venez de suivre à Massissi avec ces reportages de Denis Lukesso. Au moins 630 000 personnes déplacées sont privées de l'aide humanitaire. Il y a également, n'est-ce pas, les populations des Sake, des Mwenso, des Kichanga, des Chacha notamment. Et monsieur Alain Mboko, est-ce que vous savez où se trouvent toutes ces personnes?
Merci. Là, on vient de suivre la description de faits tels que se passent. Comme vous le savez, les atrocités qui se passent à l'Est entraînent plusieurs impacts. Le plus grand impact, c'est le déplacement itératif des populations. Et avec ses corollaires, notamment le besoin en abri, les gens qui ont quitté leur village n'ont pas d'abri, et lorsque l'insécurité s'accroît, les gens se déplacent. Là, c'est la question des abris qu'on n'arrive pas à couvrir, et pour le moment, on ne sait pas situer avec exactitude toute la population, parce que il y a toujours des déplacements. Mais au moins, là, on sait.
Donc vous ne savez pas localiser ces populations. Vous ne savez pas où elles se concentrent.
Par exemple, dans la ville de Goma, on a des sites qui ont reçu de nouveaux déplacés. C'est notamment le site de Bouchagara, de Bouvira, de Kanyarushina, Boulengo, Lac Vert et Bureremana. Ce sont des sites qui étaient là, qui ont reçu de nouveaux déplacés. Au niveau de Sake, il y a aussi des sites qui étaient là, Nzulo, Chacha, Lushagara, Chabintu, Ruzayo, Don Bosco, Bouimba, et au niveau des églises de la CEPAC. Il y a aussi d'autres qui sont allés vers Minova. On a des sites, mais qui connaissent un accroissement exponentiel des populations avec des besoins en termes d'abri, en termes d'assistance alimentaire et nutritionnelle, eau, hygiène et assainissement, mais avec un autre problème, c'est la violence est due, entre autres, à la promiscuité dans ces conditions d'hébergement qui sont inhumaines.
Et comment vous assurez la survie de ces personnes, leur accueil?
Il y a des équipes qui sont sur place, qui essayent de faire le profilage chaque fois que le mouvement de la population s'effondre. C'est notamment l'équipe des actions humanitaires avec la protection civile et d'autres acteurs qui sont sur place. Mais comme il s'agit d'une situation avec le conflit armé, l'accès n'est pas toujours facile pour les populations civiles. C'est là où les données que nous présentons peuvent être dépassées.
L'accès n'est pas facile pour vous vers ces populations afin de leur apporter de l'assistance,
c'est ça? Oui, donc je dis pour le service étatique. Il s'agit de déplacements qui sont dus au combat. Et devant le combat, il y a une certaine restriction pour l'accès aux services étatiques civils.
Et donc, vous ne savez pas comment ces personnes se nourrissent. Vous ne savez pas si celles qui tombent malades, comment elles sont prises en charge par rapport aux soins de santé. Vous ne savez pas tout ça.
Nous avons des informations qui sont disponibles, puisque quand on suit la situation des déplacés, c'est les abris, ils sont combien, ils sont où? C'est là où nous avons évoqué les sites. Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Leur alimentation, c'est l'assistance qui vient, qui peut provenir de l'État ou des autres organisations, mais aussi la santé, c'est l'un des piliers qui fait partie des actions humanitaires ainsi que l'approvisionnement en eau. Et nous donnons la situation qui est reportée, qui remonte par les mécanismes de veille. On n'a pas toutes les informations. Les informations que nous avons reçues, par exemple, l'avant-midi, parce que nous faisons la ronde chaque matin, le soir, elles peuvent
évoluer
si on n'a pas les derniers chiffres.
L'unique endroit où, en fait, dans la zone, là, l'unique endroit où il n'y a pas d'affrontement pour le moment, c'est la ville de Goma. Et donc, logiquement, les populations ont tendance à venir, n'est-ce pas, s'émasser dans cette ville qui a déjà les habitants de Goma qui sont déjà là. Et puis, vous avez les anciens déplacés qui étaient déjà là. Et même les réfugiés, vous avez cité même les camps de Kanyaruchinya. Et comment vous arrivez à gérer toutes ces populations-là? D'abord, les habitants de Goma qui sont déjà là et qui ont même du mal à s'approvisionner en produits de première nécessité parce que il est dit que les axes sont, n'est-ce pas, contrôlés par la rébellion. Et donc, ils se posent déjà ces problèmes-là. Et voilà que d'autres personnes viennent s'ajouter. En fait, quelles sont les capacités du gouvernement congolais à pouvoir aider toutes ces personnes-là à accéder à l'assistance?
Le gouvernement, dans le cadre des actions humanitaires, travaille avec ses partenaires. Vous avez suivi, le ministre de la Défense s'était déployé sur le terrain, il s'est fait accompagner d'une assistance dont nous ne connaissons pas complètement le contenu. Nous avions
une assistance à l'endroit de ces déplacés?
Les déplacés et certains victimes des atrocités.
Vous devez connaître les contenus parce que c'est vous qui vous occupez de ça, n'est-ce pas?
Non.
Le ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires.
En matière d'assistance, nous faisons la comptabilisation de tout ce qui est apporté. Par exemple, l'assistance apportée la semaine passée, la distribution est en cours. Nous aurons le rapport après toutes les opérations. Nous avons planifié une mission conjointe avec le chef de mission diplomatique et les agences humanitaires qui devait avoir lieu le 15, mais finalement, compte tenu de l'évolution de du contexte, cette mission a été annulée. Mais sur place, à Kinshasa ici, on a lancé une soirée de solidarité pour collecter l'assistance qui doit aller. Et la semaine prochaine, le 20, nous faisons le lancement du plan de réponse humanitaire qui réunit le gouvernement, l'équipe humanitaire pays, les ONG internationales et les ONG nationales pour faire le point de l'assistance qui est déployée dans différentes provinces et avec le besoin non couvert pour lequel on doit faire un plaidoyer pour la mobilisation de ressources supplémentaires au regard de l'accroissement des besoins.
Déjà, vous avez du mal à accéder à l'endroit où se trouvent ces personnes-là et donc vous aurez du mal, n'est-ce pas, à estimer les besoins de ces personnes. Comment vous allez organiser l'assistance et vous allez organiser l'aide alors que vous n'avez pas la possibilité, n'est-ce pas, d'estimer les besoins de ces personnes?
Non. Estimer, nous connaissons le besoin. Mais la question qui se pose, c'est de les chiffrer au centime près. Ils sont combien? Et quand on voit les mouvements itératifs des populations, la population, les sites, avec les attaques, certains sites, c'est vide. Donc, il faut, avec la commission mouvement de la population, on suit ces mouvements pour localiser. Et lorsque on vient avec l'assistance, on répond aux besoins des gens qui sont identifiés et le besoin évalué. Donc, la question de...
Ces gens sont identifiés par vous?
Ils sont par la commission.
C'est par la commission, oui.
Par la commission, il y a le ministère de l'Intérieur, les autres...
Identifiés, mais on ne connaît pas leur nombre exact.
Le nombre exact, donc moi je peux dire, il y a 24 heures, le nouveau arrivé à Goma, on avait identifié presque 46 995 ménages. Nous parlons en termes de ménages, quand on voit que la moyenne de ménages c'est environ 6 personnes, et dans le territoire de Nyiragongo, on avait identifié 59 957 ménages, presque 60 000. Et dans les territoires de Massis, autour de Sake, il y avait 67 823 ménages et du côté de Minova, presque 50 000 ménages. Ça, ce sont les estimations. Mais après ces premiers profilages, quels sont les autres mouvements? C'est là où je disais que on a des éléments, des estimations qui permettent quand même de projeter l'assistance et quitte à affiner le chiffre au fur et à mesure qu'on fait le travail d'assistance.
Merci, Maître Paulin Kalenga. Vous êtes chargé des programmes de l'organisation AIDES, Action et Intervention pour le Développement et l'Encadrement Social basé à Goma au Nord Kivu. Vous faites partie, n'est-ce pas, des humanitaires présents à Goma. Et que vous inspire cette situation humanitaire qui prévaut actuellement dans le Nord Kivu?
Ah, ok. Merci encore, Monsieur Guy Maté. Et bonsoir encore une fois à tout le monde au sein du studio. Alors, avant toute chose, je voudrais d'abord, dans un premier temps, rendre hommage un peu aux différents déplacés qui nous ont quittés et qui sont décédés durant ces affrontements-là, et partager aussi ma compassion à tous ces déplacés qui sont en ces moments dans des situations assez difficiles. Alors, si vous permettez, M. Guy, je voulais d'abord permettre aux auditeurs de circonscrire ce dont nous sommes en train de parler maintenant, aujourd'hui. Parce que c'est toujours avec affliction que je parle un peu de la situation humanitaire. Pourquoi? Parce que quand on parle de la situation humanitaire, ça veut dire qu'on parle des vies humaines qui sont en danger. Et nous avons des déplacés qui ont été forcés de fuir, qui en ces moments se retrouvent dans des conditions assez difficiles, n'arrivent pas à manger, n'arrivent pas à s'habiller, n'arrivent pas à avoir accès aux soins, n'arrivent pas donc à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Il faut qu'on comprenne par là de quoi on est en train de parler. Donc on est en train de parler de personnes qui sont en danger de mort et qui cherche à survivre. Parce que quand on parle de survie, on parle de personnes qui cherchent à rester en vie, qu'elles ne meurent pas. Voilà la situation dont on est en train de parler. Alors, par rapport à ces cas, vous verrez que depuis que les affrontements se sont intensifiés au mois de février,
ceux qui connaissent un peu la situation géographique au niveau de la zone, plusieurs déplacés sont venus sur l'axe Sake et Goma, et d'autres déplacés qui étaient sur l'axe Kiroche, Bweremana, d'autres se sont déplacés vers le sud Kivu, du côté Minova. On va un peu se focaliser, comme vous l'avez dit, au niveau de ces déplacés qui sont autour de Goma. Parce que autour de Goma, je crois, comme le docteur l'a souligné, il y a plusieurs déplacés qui sont dans les sites de déplacement et d'autres qui sont dans les familles d'accueil. Et je crois, à ce stade, il faut un peu être clair là-dessus, parce qu'il y a de cela quelques temps, quand j'ai encore participé à Dialogue entre Congolais, j'avais tiré une sonnette d'alarme. J'avais dit que si nous ne faisons pas attention, nous allons être en face d'une situation qui va de mal en pis. Je n'étais pas prophète de malheur, mais face aux éléments qui étaient en train d'être analysés, déjà cette situation était à prévoir. Et voilà aujourd'hui que la situation s'est déroulée. Et donc, comme le docteur l'a dit, c'est vrai, il y a des estimations en termes de chiffres. Là, on parle de plus de 500 000 personnes, si vous avez lu même le rapport au Tchad, plus de 500 000 personnes qui se sont déjà déplacées depuis que la crise a commencé. Et aussi, les 630 000 personnes dont on est en train de parler, je pense qu'il faudrait un peu circonscrire aussi cela. Ce sont les personnes qui sont au niveau du territoire de Masisi et comme c'est dans une zone d'affrontement, actuellement, il n'y a pas assez d'accès par rapport à ces personnes. Je prends l'axe Masisi, Goma-Masisi-Centre, je prends l'axe Goma-Mouesso. Voilà un peu de cette façon dont on peut circonscrire les choses. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par là ? Ces personnes qui sont au niveau de Goma sont vraiment dans un besoin énorme. Je dis bien, c'est un besoin énorme. Il faut voir la situation dans laquelle ces personnes se retrouvent actuellement. Et beaucoup sont dans des centres collectifs, ceux qui n'ont pas pu avoir de famille d'accueil, et ils dorment à la belle étoile. D'autres ne parviennent pas à avoir à manger, etc. C'est vrai? Les acteurs humanitaires au niveau de Goma, autour d'Ocha et bien évidemment avec l'appui du gouvernement provincial, ils essaient de voir ce qui peut être fait par rapport à ça. Mais ils se butent, et c'est ce que j'avais dit l'autre fois, à des soucis énormes des ressources financières.
Voilà.
Parce que déjà avec les déplacés que nous avions en son temps, il était difficile de satisfaire au moins le besoin. Et avec le chiffre qui s'est augmenté, comprenez que la situation devient de plus en plus critique. Et donc, c'est important qu'on puisse mobiliser les gens pour venir en aide à ces personnes déplacées. Sinon, nous allons comptabiliser de morts et de morts.
Oui, Maître Ponin Kalenga, est-ce que vous arrivez, vous, humanitaire, vous arrivez à accéder à ces personnes dans la ville de Goma?
Oui, au niveau de la ville de Goma, l'accès s'y trouve parce que les sites où ces personnes se retrouvent, ceux qui sont dans les sites et les centres collectifs, cela est accessible. Et les acteurs humanitaires sont déjà en train de poser au moins des actions préliminaires, notamment pour essayer au moins d'améliorer les conditions d'hébergement de ces personnes, parce que le gouvernement provincial a pris quand même un arrêté dans ce sens-là, où il y a un espace qui a été un espace d'extension qui a été donné là-dessus. Et donc, on a accès à ces personnes, et il est juste question qu'on vienne avec de l'appui en urgence pour les assister. Voilà la situation d'accessibilité au niveau de Goma.
Oui, en termes de réserves que détient la ville de Goma aujourd'hui, c'est-à-dire des réserves auxquelles on peut, n'est-ce pas, recourir en cas d'urgence comme on sait maintenant, Maître Paulin.
Effectivement, au niveau de la coordination humanitaire et donc des acteurs, on est en train de voir un peu les capacités qu'il y a auprès des différents acteurs, notamment que ce soit pour les acteurs en AME, que ce soit pour les acteurs en abri, différentes capacités, mais vous verrez que ces capacités ne représentent presque rien là-dessus. Parce que le besoin est assez énorme, mais on ne parvient pas déjà à avoir assez de ressources pour répondre là-dessus. Et donc, les acteurs s'organisent avec le peu de moyens, mais les actions n'ont pas encore vraiment débuté parce que on se bute à ces soucis de ressources et des capacités énormes. Et donc, il y a urgence à ce qu'on mobilise assez de bailleurs de fonds, que le gouvernement aussi, comme le docteur l'a dit, s'il y a de capacités là-dessus, qu'on vienne en urgence pour assister ces ménages. Parce que oui, ils sont accessibles et il faut venir sauver des vies.
Oui, vous, humanitaire, à part les difficultés en termes des ressources financières, et quelles sont les autres difficultés auxquelles vous faites face? Est-ce que vous arrivez à vous déplacer? La mobilité, elle est assurée. Est-ce que vous faites votre travail tout en étant en sécurité? Est-ce que votre sécurité est assurée?
Merci beaucoup, M. Guimaté. Par rapport à ça, c'est que je peux dire, c'est répéter un peu ce que j'ai dit auparavant. C'est-à-dire, au niveau de Goma, oui, les sites sont assez accessibles. Au niveau de l'intérieur, sur certains axes du territoire de Massissi, où on trouverait quand même ces 630 000 personnes, l'accès n'est pas assez facile là-dessus, parce que ce sont des zones vraiment de combat. Je parle de l'axe Goma-Massissi-Centre, axe Goma-Mouisso. Mais au niveau de Goma, c'est assez accessible, mais il faudrait aussi souligner que, à un moment, il y a aussi au moins de bombes qui arrivent près de certains sites et qui ont été même larguées dans certains sites et déplacées. Et donc, cela pose aussi, comprenez, de temps à autre, que l'on prenne certaines précautions pour ne pas être exposé là-dessus. C'est ici l'occasion de faire aussi un appel à tous les belligérants, au moins de respecter la protection des civils. C'est vraiment une obligation pour que les civils ne soient pas exposés au moins aux différents effets de guerre là-dessus. C'est un appel que je lance là-dessus. Mais voilà la situation qui se présente. Oui, les acteurs humanitaires parviennent à accéder au site des personnes qui se trouvent autour de Goma et dans les familles d'accueil. Et il y a urgence qu'on puisse au moins mobiliser davantage pour aider toutes ces vies qui sont en danger.
Mais est-ce que vous pensez aussi aux populations de Goma qui sont déjà là, les habitants de Goma, mais qui ont du mal à s'approvisionner actuellement parce que tous les axes d'approvisionnement sont occupés par les rebelles? Est-ce que vous pensez à ces populations-ci?
Effectivement, comme vous l'avez dit, ces affrontements créent plusieurs effets multiplicateurs et notamment affectent également, parmi les effets multiplicateurs, la population de Goma est affectée parce que les axes d'approvisionnement sont déjà assez bloqués et les prix commencent à galoper, les prix pour ce qui est de produits de première nécessité commencent à galoper. Et comprenez que plus le temps pourra passer, on va encore se retrouver dans une situation plus pire que ce qu'on est en train de vivre maintenant, parce que toutes les ressources, les déplacer mettre une pression sur les ressources déjà disponibles ici, et lorsque les ressources vont s'épuiser, comprenez un peu la situation dans laquelle on va s'y retrouver et déplacer les communautés d'accueil.
Merci. Placide Zilamba, secrétaire exécutif de la société civile du Nord Kivu, quelle lecture vous faites de cette situation?
Merci d'abord pour la question. Je tiens d'abord à saluer aussi les personnalités avec lesquelles nous partageons cette émission. Et aussi redire notre compassion aux plusieurs populations de notre province Nord Kivu en situation de déplacement actuellement liée à cette situation d'insécurité qui a trop duré dans cette zone. Alors, qu'est-ce que nous faisons de la situation, comme vous l'avez dit? Nous jouons nos trois rôles d'abord et puis on ajoute un autre quatrième rôle. Le premier rôle, c'est que nous sommes en train de documenter tous ces cas, donc par un monitoring régulier, tous ces cas de déplacement et avec les violations de droits de l'homme qui sont liées, mais aussi nous sommes en train aussi de sensibiliser la population sur les comportements adoptés pendant ces temps. Le troisième rôle, nous sommes en train aussi de mener un plaidoyer pour que cette guerre prenne fin, pour que les autorités congolaises et même tous les partenaires de la RDC recherchent rapidement la solution à cette crise, parce que la plus grande réponse, comme on l'a dit ici, je tiens d'abord à féliciter tous les humanitaires et saluer le grand travail qu'ils abattent ici malgré les moyens limités à leur disposition. Mais la plus grande réponse reste la libération de tous ces espaces qui sont conquis par par les rebelles et que nos populations qui sont dans des sites de déplacés rentrent chez elles, parce que la population du Nord Kivu, elle est la majeure partie, elle vit de l'agriculture et que donc elle ne pourrait pas manquer à manger s'il y avait la paix et la sécurité. Alors le quatrième rôle que nous sommes en train de jouer, c'est la participation aux réunions, aux organes décisionnels pour essayer de trouver la réponse. La société civile participe au processus de Nairobi qui a déjà bloqué, au plusieurs pour parler, et même au niveau local, dans plusieurs mécanismes pour chercher des réponses, notamment même des discussions avec les autorités locales. Mais bon, la réponse n'est pas encore arrivée. Mais nous tenons quand même à dire ici, Guy Maté, comme les autres l'ont dit, Goma est transformé aujourd'hui en un cas de déplacés. Il ne faut pas dire qu'il y a des sites, mais tout Goma est devenu.
Allô, Placide Nzilamba?
On ne se soucie pas surtout de ceux-là qui sont dans les familles d'accueil. Et pourtant, le grand nombre de déplacés se trouvent aujourd'hui dans les familles d'accueil. C'est vous. Si Goma Ouest, vous allez trouver que dans plusieurs des familles, il s'est ajouté 2 à 3 familles. Alors, le premier humanitaire qui a répondu directement aux besoins qui s'expriment de par ces mouvements de population, c'est d'abord la communauté d'accueil, donc les habitants de la ville de Goma, qui répondent aujourd'hui aux besoins de ceux-là qui sont venus de Sake. Comprenez que Sake comptait à lui seul 76 000 habitants. Et aujourd'hui, si on compte ce qui reste à Sake, il n'y a que 0,05% de la population. Donc la majeure partie a quitté Sake.
Placide Nzilamba.
Oui.
Justement, qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement? Quelles sont les recommandations que vous formulez au gouvernement pour que l'assistance puisse effectivement arriver aux bénéficiaires, ceux qui sont dans les camps des déplacés, mais aussi dans des familles d'accueil?
Effectivement, la réponse d'ailleurs devait prendre l'extension communauté d'accueil et les déplacés. C'est la première recommandation qu'il faut donner, parce qu'il y a nous avons un délégué du ministère des Affaires humanitaires dans les missions. L'affaire, c'est que on ne prend pas seulement les déplacés, mais il faut quand même dans la réponse identifier aussi des appuis aux familles d'accueil qui viennent de porter tout ce lourd fardeau durant cette période de la crise. Deuxième des solutions, c'est de dire le gouvernement a maintenant là dans l'urgence avec l'armée l'obligation de rouvrir les voies d'accès, notamment la voie Goma-Binova, la voie Goma-Massissi-Centre et la voie Goma-Kanyabayonga. C'est parmi les plus grandes urgences, parce que Goma devient maintenant une prison à ciel ouvert. C'est là que nous pouvons trouver encore un peu de soulagement pour avoir des biens qui viennent de l'intérieur. Donc Goma est coupé de l'intérieur. Alors, une autre réponse, comme je l'ai dit, la première des réponses d'ailleurs qu'il fallait considérer, c'est de libérer toutes ces entités sous l'emprise de l'armée rwandaise, parce qu'ici on ne parle plus de M23, ça s'est disparu. C'est l'armée rwandaise qui a assiégé toutes ces entités. Les libérer rapidement pour que ces populations rentrent chez elles. Imaginez-vous, nous sommes pendant la saison estivale, la petite saison. Ces gens seraient déjà dans leur centre de travailler et de faire les champs pour la survie de leur famille. Donc le gouvernement devait en tout cas engager plus vite des opérations militaires pour libérer ces espaces.
Le gouvernement
a cette responsabilité. C'est lui d'abord le premier humanitaire qui devait être sur le terrain, d'apporter d'abord l'appui d'urgence à ces familles qui viennent de quitter Sake et ses environs jusqu'à Goma. Il faut ajouter que l'aspect qu'on a oublié, c'est qu'il y a des déplacés aujourd'hui qui ont quitté aussi Mweso, Katsiru, et qui se concentrent sur Nyanzale et Kikuku. Tous ces gens-là ne sont pas comptabilisés jusqu'à ce jour. Il y a d'autres déplacés, comme le délégué de AIDES dans l'émission l'a dit, qui ont quitté tous ces villages, Chacha, Kiroche et la suite, qui ont pris la destination de Minova. Tous ces gens-là, on ne sait pas, à ce moment, ils vivent de
Placide.
Quoi.
Placide.
Donc, à notre niveau, oui.
Oui, s'il faut parler de la ville de Goma, on apprend que certains déplacés sont allés se réfugier dans des églises, d'autres dans des écoles. Et dans ces conditions, est-ce que la scolarité des enfants n'est pas compromise?
Effectivement, la scolarité. D'ailleurs, nous avions proposé, quand les bombes étaient en train de tomber, même vaille que vaille dans la ville, surtout le quartier ouest, à Mugunga, là-bas, on avait demandé à ce qu'on suspende un peu les activités scolaires dans ce milieu-là, pour ne pas exposer trop les enfants. Mais aussi, quand ils sont dans les écoles. Donc, en tout cas, ça astreint certaines activités scolaires à se dérouler. Donc, il y a maintenant un besoin urgent de les délocaliser vers des sites qui doivent être viabilisés rapidement, afin qu'on laisse les enfants poursuivre, parce qu'aujourd'hui nous sommes pendant les examens. Imaginez-vous les enfants qui sont privés des examens parce que les écoles ont reçu les déplacés. Ça devient plus compliqué. Donc, la guerre touche même l'aspect le plus intrinsèque de la vie humaine, notamment l'éducation.
Merci.
Donc, nous pensons que cet aspect aussi devait être pris en compte pour vite délocaliser ces personnes qui sont dans les écoles et les ramener vers des sites qui seront plus viables afin de laisser les élèves suivre le cours normalement.
Merci. On prend maintenant ces nombreux auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Docteur Alain Mboko Yeti, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Goma, c'est Monsieur Mastaki.
Je suis ingénieur Alain Mastaki depuis la ville de Goma. Oui, la situation humanitaire des populations déplacées à la suite des affrontements dans les territoires de Masisi est de plus en plus préoccupante. Déjà, la vie socio-économique dans la ville de Goma est devenue intenable, étant donné que les activités des petits commerçants sont paralysées suite à la coupure de routes reliées à la ville de différents territoires, ce qui occasionne la hausse des prix sur le marché. L'hébergement des réfugiés dans des familles d'accueil devient de plus en plus difficile dans la ville de Goma. Et ceux se trouvant dans des camps de réfugiés sont abandonnés à leur triste sort. Les autorités, visiblement, sont concentrées à la guerre et ne sont d'ailleurs préoccupées de ce que traversent les enfants et femmes déplacées qui ont besoin non seulement de vivre et non vivre, d'un abri, mais aussi d'un accompagnement psychologique. C'est pour nous une occasion d'interpeller nos dirigeants et les organisations humanitaires sur l'urgence de protéger la dignité de cette population déplacée et sauver ses vies en péril en attendant le rétablissement de la paix et le retour dans leur famille, dans leur milieu de vie.
Docteur Alain Mboko Yeti.
Oui, la réflexion est tout à fait pertinente. On voit que la détérioration de la situation sécuritaire entraîne beaucoup de dégâts. La coupure des routes, la hausse des prix et le retentissement de tout cela sur le famille d'accueil. Le gouvernement est sur plusieurs fronts. Il y a le front pour la restauration de la paix, front sécuritaire. Il y a l'humanitaire qui paraît un peu délaissé, mais aussi les aspects de développement. Je crois que les trois aspects vont de pair. Et au niveau du gouvernement, nous essayons de faire cet effort. Et je vous ai dit tantôt qu'il y avait une mission qui était planifiée pour apporter l'assistance aux différentes populations. Mais la donne qui s'ajoute, que maintenant, il faut prendre en compte les familles d'accueil qui sont sinistrées pour avoir offert leur hospitalité à ceux qui sont venus.
Docteur Alain, ça fait longtemps que nous sommes dans cette situation de guerre. Hein, donc, c'est une situation qui était, cette situation des déplacés, c'est une situation qui était prévisible. C'est des effets collatéraux, n'est-ce pas, de cette guerre. Et pourquoi le gouvernement n'a pas été clairvoyant? Pourquoi le gouvernement n'a pas pris des dispositions avant? Et parce qu'on savait que ce que nous déplorons aujourd'hui allait arriver.
Prendre les dispositions, le gouvernement a pris des dispositions. Il est engagé dans un processus de pacification pour permettre... Sur le plan humanitaire, je parle du plan humanitaire. Mmh. C'est comme ça que on a fait le plan de réponse humanitaire en prenant en compte toutes les hypothèses possibles. Ici, nous vivons l'hypothèse catastrophique, la pire des hypothèses, où la situation sécuritaire s'est dégradée au-delà de toutes les attentes. C'est là où maintenant il y a de nouveaux besoins qui nécessitent de réadapter rapidement la réponse. Je vous ai parlé de la mission conduite par le ministre de la Défense sur un certain aspect. L'un des aspects, c'est permettre que les populations aient des couloirs pour se déplacer pour s'approvisionnement. À cela s'ajoute la mission d'assistance humanitaire pour les populations civiles. Et là, je vous ai parlé de la campagne de solidarité et du lancement du plan de réponse humanitaire qui doit réévaluer les plans qui est prévu et qui sera...
Parce que il y a un plan, n'est-ce pas, qui a été conçu, et autant il y a un budget pour les opérations, autant on devait, n'est-ce pas, prévoir un budget pour faire face à cette situation humanitaire, n'est-ce pas?
Vous savez, le budget, ce sont les prévisions. Au-delà des de, prévisions sont là, maintenant il faut faire un travail de mobilisation de ressources pour répondre aux besoins. Maintenant qu'il y a l'accroissement de besoins, c'est le travail de mobilisation de ressources pour déployer le moyen afin de répondre dans la mesure du possible aux besoins qui se présentent sur le terrain.
Et vous pensez que le gouvernement est présent?
Le gouvernement est présent.
Là où on l'attend?
Oui, le gouvernement est présent. Il y a les autorités qui sont là, les services qui font le travail. Nos deux amis ont parlé de la présence des actions humanitaires et d'autres services dans les missions de profilage ou dans la mission d'assistance humanitaire. Mais c'est que nous devons reconnaître que les ressources déployées sont en deçà de besoins réels. C'est là le travail que nous faisons, qu'on puisse augmenter.
Merci. Merci, oui. Maître Paulin Kalenga, vous réagissez aussi à l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, au Sud-Kivu.
C'est Gabriel Ekwalanga, depuis Bukavu, au Sud-Kivu. Avec ce rapport alarmant d'Ocha, j'ai comme impression que même les ONG aussi en RDC sont devenues moins sérieuses. Je ne sais pas comment, avec tous ces financements, et donc que toutes ces ONG locales, nationales et internationales reçoivent, elles ne sont pas en mesure de répondre au moins à 50% aux besoins de ces populations déplacées. À l'État congolais aussi, nous les demandons aussi de prendre ses responsabilités en apportant son aide à se déplacer. Car en principe, la responsabilité première de secourir se déplacer en vivre et non vivre incombe en premier lieu au gouvernement congolais d'abord et par après aux ONG présentes sur terrain.
Maître Paulin Kalenga.
Ah ok, merci beaucoup. Je remercie l'auditeur par rapport à sa question. C'est que je voudrais peut-être clarifier là-dessus, c'est quoi? C'est que le besoin est assez énorme par rapport aux ressources. Je prends juste le cas par rapport au plan de réponse humanitaire 2023, où nous avions un besoin au moins d'assister 10 millions de personnes, les ressources n'ont pas suivi. Le plan a été financé uniquement à hauteur de quelque 27%. Allez-y comprendre. Donc sur 100 personnes que vous devez assister, vous ne parvenez qu'à mobiliser le moyen pour en assister 27. Et tout le reste, à peu près 70 personnes, vous ne parvenez pas à les aider. Et sur les 70 personnes, il y a encore une affaire de plus de 100% de ces mêmes personnes qui se déplacent d'un coup. Comprenez un peu la difficulté à laquelle les humanitaires font face. C'est vrai, les humanitaires essaient de faire avec les moyens de bord et voir comment venir en aide à ces personnes, mais il faut davantage que le gouvernement, les bailleurs de fonds puissent assez donner pour venir en aide à ces personnes. On les remercie déjà pour les appuis faits en RDC par rapport à tout cela, mais il y a encore beaucoup de besoins et il faut sauver des vies. Voilà au moins la situation que l'on peut clarifier à notre cher auditeur de Bukavu.
Merci, Placide Denzilamba. Vous réagissez aussi à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle de Goma. Le deuxième auditeur de Goma, c'est Moussafiri.
Moi, c'est Pierre Moussafiri depuis la ville de Goma, au Nord Kivu. Les rapports de Ocha à sa raison d'être et d'ailleurs vu la situation sur le terrain, c'est plus de 630 000 personnes déplacées qui jusqu'ici sont sans assistance et cela sans compter ceux qui sont dans des familles d'accueil dans la ville de Goma. Personnellement, ma famille et qui s'était déplacée lors des affrontements à Mwenso et actuellement à Nyanzale, où trouver même l'abri est très difficile. Et elle vit dans l'inquiétude du fait que l'ennemi ne cesse d'avancer vers la cité de Nyanzale après la prise de Katiru qui est à quelques kilomètres de Nyanzale. C'est pourquoi nous demandons à notre gouvernement de ne pas penser seulement à Sake et Goma pour trouver la solution, mais de savoir que toutes les localités qu'occupent le M23 RDF constituent l'intégrité du territoire national et que la population a le même droit, d'où il faut chercher comment libérer toutes ces zones et que les habitants puissent retourner dans leur village d'origine. Merci beaucoup.
Placide Nzilamba.
Effectivement, l'auditeur ne retrace que tout ce que nous avons dit ici. Il faut préciser ici que aujourd'hui, il s'observe un besoin urgent que l'État, en compassion avec cette population de Goma et de tous les lieux où les populations se sont déplacées, l'État devait suspendre la perception de certaines taxes et certains impôts en ville de Goma. Parce qu'il est impensable qu'une ville qui est totalement un cas de déplacé, qu'on continue à percevoir des taxes et quoi, impôts, c'est de petites choses. Donc, nous pensons que la vraie solidarité du gouvernement, avant que le gouvernement n'amène autre chose, il y aurait quand même un besoin urgent de suspendre la perception de certaines taxes aussi. C'est parmi la solidarité nationale. Tout ce que l'auditeur a dit, il y a aussi la nécessité d'aller identifier les besoins de toutes ces personnes partout où elles se trouvent. Mais comme je l'ai dit au début, c'est que tout ce qui est à faire, c'est que le gouvernement aujourd'hui devait tout faire, mettre tous les moyens en œuvre pour libérer tous ces espaces sous l'emprise de l'ennemi.
Merci, nous sommes à la fin de l'émission. Vous allez conclure, Dr Alain Mboko Yeti, secrétaire général aux actions humanitaires et solidarité nationale. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour sauver des vies? Parce que c'est en fait ça l'urgence.
Pour sauver des vies, il faut restaurer la paix, la sécurité, apporter l'assistance par rapport aux besoins des populations, et c'est pour cela que nous appelons la population à plus de solidarité et que le gouvernement fasse le nécessaire pour répondre aux besoins exprimés par la population dont il a l'entière responsabilité.
Et en attendant que la paix ne soit rétablie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait immédiatement pour venir en aide, n'est-ce pas, à ces populations qui sont dans le besoin?
Les populations sont dans le besoin, on doit apporter l'assistance et selon le principe humanitaire, puisqu'il s'agit des vies humaines, la vie humaine est sacrée, faudrait que, avec tous les partis en présence, on arrive à aménager des couloirs humanitaires pour que ces populations qui souffrent reçoivent l'assistance et puissent alléger leur souffrance.
Maître Paulin Kalenga, vous êtes chargé des programmes de l'organisation AIDES, Action et Intervention pour le Développement et l'Encadrement Social basé à Goma au Nord Kivu. Vous êtes parmi les humanitaires. Il y a aussi cette autre problématique, hein, c'est celle des enfants non accompagnés. Comment vous arrivez à encadrer ces enfants non accompagnés?
Ok, merci beaucoup, M. Guimaté. Par rapport aux enfants non accompagnés, c'est vrai, il y a de ces acteurs qui sont sur terrain. Et dès qu'on parvient à identifier des cas nous sont reportés là-dessus, ces enfants sont référés au moins auprès de ces acteurs qui s'occupent un peu des enfants non accompagnés, des enfants séparés. C'est aussi une problématique de protection qui est en cours. Et voilà au moins la manière dont on essaie de régler au moins ce cas-là. Et si vous permettez, je pense que c'est la dernière fois que je prends la parole. Je voulais d'abord solliciter, effectivement, comme acteur humanitaire, qu'il y ait au moins la paix, ça c'est de un. De deux, un plaidoyer pour davantage mobiliser les ressources et l'aide d'urgence. Et de trois, je demanderai aux belligérants de faciliter aussi l'accès humanitaire pour permettre de venir en aide à toutes ces personnes dans les besoins, dans les zones isolées. Merci.
Merci Placide Nzilamba, secrétaire exécutif de la société civile du Nord Kivu. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant que société civile, pour sauver des vies aujourd'hui dans la ville de Goma?
Comme nous l'avons dit auparavant, c'est dire qu'il y a une extrême urgence de rouvrir les routes d'accès à la ville de Goma qui mène vers l'intérieur pour faciliter un ravitaillement à vivre et de première nécessité qui viennent des zones intérieures. De deux, il y a aussi cette nécessité de solidarité nationale. Nous pensons que toutes les provinces de la République devaient se mobiliser autour de cette question, d'abord pour l'assistance humanitaire, mais aussi mobiliser toutes les énergies pour que cette guerre prenne fin pour aider le gouvernement, pousser le gouvernement à trouver une réponse rapide à cette crise humanitaire qui a trop duré dans cette zone. Et les autres aspects de conquête, et quoi, je crois que le gouvernement devait mobiliser assez de ressources pour être lui-même au premier plan dans l'assistance auprès de nos populations qui souffrent dans des familles, d'accueil et même dans des sites de déplacés actuellement. Et en dernier lieu, c'est dire que le gouvernement de la République devait suspendre la perception de certaines taxes et certains impôts ici au Nord Kivu et particulièrement en ville de Goma, maintenant même.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Docteur Alain Boko Yeti, Monsieur Placide Nzilamba et Maître Paulin Kalinga. Merci également à toute l'équipe qui était avec moi, Kéline Kouté, Pierre Diassinois et Jonathan Fouanani, Clément Chimanga, Hervé Voka, sous la supervision de Martin Sevoujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Capitale.